Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 482e émission, placée sous le signe de Clio, j'ai envie de dire, de la muse de l'histoire.
Puisque... Oui, je croyais que c'était sous la bonne aura du soleil, je me dis ça y est, il est devenu fou.
Non, je me place sous le signe de Clio, muse de l'histoire, puisque nous allons... Nous aussi commémorer les événements historiques de l'année 1944. Alors je sais bien que le débarquement occupe beaucoup d'espace médiatique, mais c'est intéressant qu'on ait une BD qui nous rappelle qu'il s'est passé d'autres trucs en 1944. D'ailleurs des trucs connexes, on peut dire, aux événements
liés, plus ou moins liés à la tension et à l'énervement des troupes d'occupation face aux événements qui commençaient à leur échapper.
Ouais.
C'est là qu'à Oradour-sur-Glane en août 44, la division Das Reich, une division Waffen-SS, comment tout de noir vêtu, normalement, quand il paradait, parce qu'en opération, il mettait...
Camouflage.
Campagne.
Voilà. Notre invité a failli vous reprendre, attention Roger.
J'ai la fiche technique de leur album, je peux vous dire qu'ils ont bossé, et ils ont bossé avec quelqu'un de bien plus chiant et pointu que moi, un témoin de l'époque, et là, ça ne rigolait pas.
Ouais, alors présentez notre invité.
Alors nous recevons Monsieur Bruno Marivin, dessinateur, qui en compagnie de Monsieur Jean-François Mignac, scénariste pour le coup, ont réalisé cet album Oradour, l'innocence assassinée, édité par les éditions on dit absolument pas Anspach.
Anspach,
qui, j'en ai parlé déjà la semaine dernière à travers le premier tome de Godefroy de Bouillon. C'était pareil, c'était la même maison d'édition. Et Anspach semble se faire une spécialité des ouvrages historiques. En tout cas, j'ai cru lire ça dans une interview d'un des responsables. Effectivement, ils ont décidé de développer tout un secteur historique. Pardon. Et alors, je ne sais pas si c'est exactement...
Le lapsus, c'était... Voilà,
ça sent beau temps, déjà.
Même si, quelque part, on en parlera tout à l'heure, il y a 300 000 personnes qui viennent chaque année sur le site, d'après ce que j'ai vu. C'est énorme.
Mmh. Mais il faisait beau, il faisait chaud, ce jour-là.
Ouais.
Enfin, on a un invité qui va nous permettre de nous replonger là-dessus, puisqu'effectivement, un album mémoriel.
Alors, un album mémoriel aussi qui bénéficie, il faut le dire, parce que c'est ça aussi qui fait l'originalité de cet ouvrage, parce que, comme on va le dire tout à l'heure, il y a trois ouvrages qui tournent directement autour du drame d'Oradour-sur-Glane. Mais votre ouvrage, Monsieur Marivin, il bénéficie du soutien de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Et ça a son importance. Vous verrez après pourquoi.
Yes. Rassurez-vous, on va vous laisser parler un petit peu. Mais on est deux super bavards.
J'ai parlé, en fait. Bon. Ah, Emmanuel vous a pas dit.
Non.
C'est vrai qu'on aurait pu faire ça par téléphone.
On s'écoute un petit X.
Ouais, et on retrouve donc notre invité.
Permanent waiting for rum and creating forever or staying and all they do is suck you. Can you hear them know you're at? They suck you. Feeling good and call it bad. They suck you. They will know to see your pain. They suck you. And I'm telling they eat your brain. Free your mind. Don't be blind. Meant to tell you you're the evil. Meant to call you the free world's foe. Tell you bad by blood and you will be a problem they end up. My body will move when you are dead. Guys like me will eat your daughter. Yeah, yeah, it should be in the brain.
kids an obsession. Make me feel like a free bird. Always feel so clever. Want me to do what you live for? Think wisdom is yours forever. You're not God
du ska punk.
Du ska punk, programmation à Roger, effectivement.
Monsieur Marivin, cette fois-ci, ça va être à vous de parler. Donc, je rappelle pour les goujates et les goujats qui prendraient l'émission en cours, nous recevons Monsieur Marivin, qui, en compagnie de Monsieur Mignac, scénario, ont réalisé un ouvrage de bande dessinée, naturellement, puisqu'on est chez Plumé Passot, Ouradour, l'innocence assassinée, paru aux éditions 11 pages. Mais avant, comme c'est la première fois qu'on vous reçoit, eh bien, on a une question traditionnelle. Quand même, on aime bien savoir d'où, comment vous avez décidé de sacrifier un avenir brillant, des maîtresses plantureuses à Acapulco, la richesse, l'innocence, pour devenir un forçat du 9e art.
C'est un concours de circonstances, c'est-à-dire une entreprise qui a déposé le bilan. Et puis à partir de ce moment-là, j'en ai parlé à ma moitié, puis elle m'a dit, comme je dessinais toujours, elle m'a dit, vas-y, on fait un essai, une année, j'avais le chômage, c'est un peu... et puis je me suis lancé, j'ai refait un pressbook, j'ai retravaillé, et puis au bout de quelques temps, je me suis lancé un petit peu, j'ai tapé à la porte des maisons d'édition, et ça a commencé comme ça, en 96. Et puis, je louvoyais un petit peu entre intérim et BD, pour commencer, au début. Quoi.
Mais vous aviez le virus.
Oui, depuis tout petit, j'ai jamais lâché. Quoi. J'ai essayé de faire un maximum pour les études, mais bon, c'est compliqué. Un manque de maturité, un petit peu, une période.
Qu'est-ce que le petit monsieur Marivin lisait quand il était jeune? C'était quoi ce qui lui a donné le virus, justement?
Il aimait bien Pif, Pif Gadget, Strange.
Ah,
les super-héros. Attention, pour n'importe lesquels. Spider-Man.
qu'on appelait l'araignée. Oui, on l'appelait pas Spider-Man.
On l'appelait l'araignée à l'époque, ouais.
Et Batman. Parce que pour moi, un personnage bien sombre, comme il faut.
Ouais.
Et je le trouve.
Je trouve que
c'est un des meilleurs personnages, même en réalisation film. Je crois que c'est un des plus réussis, mieux que tout ce qui a été fait. Enfin, c'est personnel. Hein, donc après,
je suis assez d'accord. Mais même sur le plan juste du design, les deux petites oreilles et tout, enfin, c'est fort.
L'esthétisme et puis la trilogie qui avait été faite, c'est Dark Knight. Je crois que c'est le 2, je ne sais plus. Ouais, il est vraiment monstrueux, celui-là, avec Joker.
Ouais.
Et avec l'acteur qui joue, là, qui s'est suicidé, Hurtiger, et qui joue un joker, mais je crois que même plus fort que Nicholson.
Nicholson, il était trop dans la blague.
Ouais, voilà, là, c'est terrifiant, quoi.
Vous suivez, Roger, parce que là, on parle comics.
Oui, voilà, ouais, exactement, je vous laisse en profiter, parce que vous l'avez sans doute remarqué, monsieur Marivin, mais collant moulant ne fait plus recette aujourd'hui. Les mangas ont terrassé. Les super-héros, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Par contre, vous avez une autre passion, semble-t-il, quand même, c'est l'histoire. Parce que quand on regarde votre biographie BD, on va dire, il y a quand même un paquet d'ouvrages autour de l'histoire.
Julia von Kleist.
Barbara Wolf. Est-ce que c'est une coïncidence, c'est tombé comme ça en fonction des projets que vous avez pu réaliser, ou alors c'est parce que vous avez discuté,
recherché
avec des scénaristes,
plutôt ce genre de scénario, ouais.
Qui font dans le
C'est un petit peu le hasard. J'ai rencontré le tournant, c'est avec Jean Blaise Jan, qui est scénariste, et ça, on a préparé deux trois. Enfin, j'ai préparé quelques planches avec lui, et c'est vrai que le tournant, c'est Julia von Kleist, quoi. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser un petit peu à cette période-là, des années 30, entre les deux guerres, quoi, au final. Et puis, je pense qu'Ken Follett m'y a aidé beaucoup.
Ah oui ?
La chute des empires, la trilogie qu'il a fait. Et puis à partir de ce moment-là, c'est venu tout seul. Et puis après, tous les projets qui m'ont été proposés, jusqu'à maintenant, c'est toujours ça, la Seconde Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres.
Ça tourne autour de l'histoire
contemporaine. Oui, j'ai un projet, comme un livre anglais avec Atier, la Seconde Guerre mondiale, quoi.
Méfiez-vous, parce que vous allez finir comme Monsieur Bravo, qui finit comme auteur que j'adore et qui ne fait plus que ça, la Seconde Guerre mondiale avec Spirou, un Spirou magnifique en plusieurs tomes, là, une tuerie.
Il a des choses à dire.
Ouais. Et alors, par contre, est-ce que le roman en jupette, par exemple, ça pourrait vous intéresser ? Est-ce qu'un jour, c'est pas exclu qu'on vous retrouve dans d'autres formes d'autres parties de l'histoire ?
Oui, oui. J'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien ?
Comme période historique.
La conquête des premiers trappeurs français qui arrivent sur la partie nord du Canada. Ça me.
Les BD comme Canoë Bay, des choses comme ça.
Ouais, et puis quand même, les plus grands pionniers, les plus grands découvreurs de l'Amérique du Nord, c'est quand même les Français, quoi. Ils ont quand même été très loin, plus loin, parce que les Hollandais et puis les Anglais, ils sont restés un petit peu à côté de...
C'est leur côté bord de mer.
Ouais, ils sont restés là, alors que les Français, ils sont allés beaucoup plus loin, ils ont fait le tour, quoi. Jusqu'au Mississippi, ils sont descendus en canoë, quoi.
Comment ça se fait qu'on est tout perdu ? Qu'est-ce qu'a merdé ?
C'est parce que les Anglais étaient plus rationnels, villes, et puis peut-être des rois.
La guerre de 7 ans, et puis la balance économique entre les Antilles et le Canada. Le Canada, les fourrures, ça rapporte peut-être pas énormément, alors que le sucre, et ça rapporte plus, quoi.
C'est bien dommage.
Vous avez fait un petit peu de polar, quand même, aussi.
J'ai fait deux. Enfin, deux. Il y en a un ésotérique avec Patrick Otias. Et on a fait 5 tomes chez Glénat. Et après, j'ai fait avec François
La mémoire Marovan, des ogres, c'est ça ?
Ouais, un belge, et puis on a fait Barbara Wolf. C'est ça. Et ça commençait à Saint-Malo, et puis il n'y a pas eu de suite, parce que les ventes n'étaient pas extraordinaires. C'est toujours le problème pour les auteurs. Il faut montrer un petit peu, des épaules, il faut y aller. Puis après, c'est des projets... je peux dire que j'ai eu de la chance quand même, parce que j'ai toujours eu du travail. Il y a eu deux périodes où ça n'a pas été très très bon. Pas des très bonnes périodes, donc là j'ai dû retourner un petit peu de travail en extérieur. On n'a pas laissé de trous dans le cocon familial pour que tout le monde ramène un petit peu sa pitance.
La vie.
Et j'ai fait 10 mois d'usine, et puis le directeur me connaissait un petit peu et il m'a dit quand tu veux lâcher, tu lâches, et puis hop, voilà. On est reparti. On est reparti sur les projets sont revenus, quoi, donc j'ai pas eu à faire d'efforts
Super. Et juste comme ça, si vous aviez vous êtes content d'être revenu, parce que ça aurait pu on peut se faire happer par le quotidien, justement.
La facilité, quand vous êtes c'est à dire que j'ai un caractère assez qui veut pas lâcher, quoi. L'usine, c'est quand même dans la période de maintenant, je pense que c'est très infantilisant.
Ah oui ?
Bah moi, je l'ai trouvé, hein, je veux dire, c'est terrible, quoi. Moi, quand je travaillais, j'ai toujours un carnet, je note les consignes, et après, j'aime pas trop qu'on me les répète. Mais bon, parce que j'ai fait un petit peu d'usine avant pour la qualité, par exemple, chez Plastic Omnium, ça s'est super bien passé. Donc, je faisais de la qualité, je voyais les pièces, celles qu'on gardait, j'ai réparé des pièces, parce que j'ai fait un autre métier avant dessinateur. Mmh. Et donc, là, on m'embêtait pas du tout, quoi. J'étais en libre.
Ouais, ouais.
Donc, personne, pas de hiérarchie, sauf pour venir voir si le travail était fait. Mmh. Et puis, des propositions pour aller plus rapidement, quoi.
En attendant, peut-être que ça vous donnera l'idée pour réaliser un ouvrage qui parlera de ça, peut-être.
Ah oui, l'auteur là, qui avait travaillé là, sur
qui
les
est mort,
usines,
ouais,
qui est mort,
très, très ouais. Tôt, ouais, c'est une catastrophe.
Quand il a sorti son livre, j'ai ressenti, mais c'est incroyable, c'est ce sentiment, ce côté-là, c'est compliqué, quoi. Mm. C'est-à-dire que maintenant, la Bretagne a été très longtemps, elle avait très peu de cadres. Hein, dans les entreprises ou dans les usines, il y avait très peu de cadres. Il y avait des agents de maîtrise, mais des cadres qui sortent, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il y avait peut-être un cadre pour 10 ouvriers peut-être, mmh. Alors que maintenant c'est beaucoup plus, il doit y avoir à peu près un cadre pour 4. Donc c'est pas du tout la même chose. Quoi.
On va s'écouter un petit Dix et puis comme ça va nous permettre de renouer directement avec Oradour sur votre rencontre avec Monsieur Mignac.
Yes, je contre ska à votre ska.
Ah,
moi je
bien,
vous propose un ska anglais et un peu plus moderne. Le morceau s'appelle Zombie Nation.
I get up, I go straight back to bed, I can't find the motivation. I get up, pop a pill for my head as I watch the zombie nation. What kind of nightmare is this that we find ourselves in? We're all up in a ship that is slowly sinking. And as I look around the room, it's like nobody is thinking. And then the samba rhythm starts to play round the parliament grounds as they tell us that we should be British and proud. But I feel like I'm falling faster than the pound, crying and I'm screaming but I can't make a sound.
Cheer up, it might never happen. But what if it already did? They've been cutting and slashing, screwing this country since I was a kid.
I get up, I go straight back.
Slashing, screwing his country since I was a kid.
Cheer up, it might never happen.
Guess what, they already did. Waving a flag with a heart full of passion. Jumped in a grave that they made you dig.
I get up, I go straight back to bed. I can't find the motivation. I get up, pop a pill for my head as I watch the zombie nation.
I think it already has, Suggs.
I get up!
Kid Capacci et Suggs de Madness interprétaient donc ce Zombie Nation contre Ska, moi je dis.
C'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien. Alors monsieur, comment Mariva, revenons-en à ma question tout à l'heure. Comment s'est faite justement cette rencontre avec monsieur Mignac? Comment il vous a présenté le projet? Comment ça s'est fait cette histoire?
Alors cette histoire, c'est vieille histoire, mais pas dour à dour. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés il y a très très longtemps quand j'ai commencé. Et puis on était dans la même maison d'édition chez Glénat et dans la même collection Polar, quoi. Mm-hmm. Et ça s'est fait comme ça puisqu'on habitait Rennes, donc on s'est côtoyé un petit peu. Et puis on s'est un petit peu perdu de vue, enfin pas vraiment, pas à Rennes, mais bon, on s'est pas revu beaucoup, quoi, sauf en salon. Et puis un jour Jean-François m'appelle et puis il me dit Bruno, j'ai un projet, est-ce que tu serais d'accord pour travailler dessus, quoi. J'ai dit oui, je te fais quelques planches d'essai. Et puis tout de suite ça m'a branché. Et à partir de ce moment-là, on n'avait pas d'éditeur, mais bon, j'ai quand même amené. J'avais une conception à un moment donné. Il y a un truc qui s'est mis en place tout seul. Et puis c'est ça que je veux faire au niveau graphique par rapport à ce que je faisais avant. Par rapport à l'Inclair, là c'est une Inclair un petit peu plus modulée. Et puis on est parti. Et puis il a fallu faire la tournée des popotes, hein, les maisons d'édition. Beaucoup de refus, hein, quand même, hein, beaucoup de refus. Et puis,
donc c'est vraiment une œuvre, on va dire, portée par vous deux au départ, quoi.
Oui, voilà, ouais. Pas l'éditeur, hein, c'est, d'accord, au départ, ouais. C'est nous deux, quoi.
Non, mais c'est
on
intéressant.
On la porte et puis. Et puis, faut faire, il faut rencontrer des éditeurs. Et à un moment donné, on en a rencontré un, mais je dis pas le nom parce que. Et puis, il voulait tout transformer, il voulait faire un roman graphique. Or, moi, je suis pas roman graphique.
Et à la fin, c'est Oradour qui gagne. Il veut tout transformer.
Celle-là.
C'est ça. Et à un moment donné, c'est pas souvent que je dis non. Hein. Et là, j'ai dit non à l'éditeur. J'ai dit non, ce sera pas comme ça. Et puis, il y a eu un laps de temps où on attendait sa réponse. Et puis à un moment donné, Jean-François me dit, tiens, il y a un éditeur belge qui serait intéressé, qui s'appelle Nicolas Anspach. Il dit, les bancos, on y va. Et puis ça s'est fait très rapidement, quoi.
Et votre comparse, quand il vient vous chercher parce que il vous a sympathisé avec vous, parce que vous êtes rennais, pour votre dessin, justement, ou pas, vous saviez?
Pour mon sérieux, je pense.
Ouais.
Ah oui, je suis très sérieux. Là-dessus, on va dire que je suis carré.
Alors, est-ce qu'il était déjà prévu que vous travailleriez avec un des survivants du village d'Oradour, que votre projet serait également porté par l'association nationale de familles de martyrs d'Oradour-sur-Glane?
Ah oui, alors là, c'est
est-ce que c'était déjà prévu, ça?
Ah oui, c'est Jean-François, parce qu'il a été contacté par Bernadette Malinvaux et Philippe Grandcoin, qui sont des historiens et qui sont dans l'association des victimes. Mmh. Et donc, c'est par eux que c'est arrivé. Et ils cherchaient un dessinateur, justement, parce que déjà, Robert était prêt, justement, à transformer le récit qui ont été dans les livres, à le passer en BD pour faire, justement, une passation parce que les jeunes ne lisent pas énormément, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça. Et donc une fois que Jean-François a fait le scénario, a présenté, parce qu'on a présenté, il était hors de question de faire l'album sans leur aval.
Ouais.
Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis les corrections et tout ça, donc c'est Jean-François qui a amené tout ce travail, les travaux d'iconographie qui nous a été numérisé par Jean-François, mais que Robert Evra nous a donné, quoi. Enfin, il nous a donné un livre de photos, quoi.
Donc quand vous avez signé, vous saviez qu'il y allait avoir quand même, on va dire, ce poids historique à porter, parce que ça, du coup, le projet devient extrêmement sérieux. On peut pas se rater là-dessus.
Non, après on est suivi, hein. Donc là-dessus, on a été suivi. Puis une fois que le scénario a été c'était bien cadré. Bon, il n'y avait pas besoin de sortir. On peut rien inventer, quoi. On a suivi le chemin. Et donc, c'est vrai que Jean-François n'a pas fait une BD linéaire. Hein. On n'est pas sur quelque chose de linéaire. Il y a des retours en arrière.
Je vous dirai, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça soulageant quelque part. Vous savez, parce que votre album commence, en fait, le massacre a eu lieu.
En fait, on voit tout depuis l'extérieur, quelque part. Et ça, c'est vachement malin. Ouais. Ouais, au début, j'ai beaucoup aimé ça.
Parce que ça nous évite le poids de l'horreur, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le hors-champ, des fois, dit beaucoup.
Moi qui suis très lâche, quelque part, j'étais bien content que ce soit vos personnages qui arrivent dans le village, qui voient ça de loin et qu'il n'y ait pas... On voit très peu de choses, en fait.
Ah bah, tu vois, moi, ça me fait l'effet de... Des fois, quand il se passe des trucs horribles dans le hors-champ, je trouve que ton imagination travaille encore plus.
C'était ça aussi le biais. C'est de ne pas montrer toutes les horreurs. Il y en a eu, il y a eu d'autres choses, mais c'était celle-là qu'on a faite, c'était les plus importantes. Et puis, par rapport à, justement, à cette imagination... Alors, bien sûr, si on prend le vieux fusil, il y a un peu cette ligne qui n'est pas linéaire du film. Là, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures. Et je pense qu'au niveau dureté, je pense que tous les films qu'on a fait, je pense que celui-là, enfin peut-être parce que il y a quelque chose, il y a cette musique qui nous rappelle quand ils sont tous les trois sur le vélo, le chien qui court, et puis après il y a cette balance où Robert Enrico nous emmène dans un endroit avec une musique un peu strident, assez angoissante, et ça prend, quoi. Et donc, le livre aussi, c'est peut-être un petit peu, il était fait comme ça, sans exagérer les choses, quoi.
Non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de temporisation qui, moi, j'ai trouvé... parce que on voit les personnages qui ne savent pas, et nous, on sait, quoi. Et je trouvais que ça amplifiait l'effet de stress.
Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Parce qu'on parle d'Oradour comme ça, comme si c'était un fait acquis, mais on n'a pas rappelé les fondamentaux de ce qui s'est passé. Donc,
pour l'auditeur, peut-être.
Pour l'auditeur, l'auditrice. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Marivin, exactement ?
Au départ ? Au départ, c'est-à-dire que tout va commencer avec... les maquisards, ça commence à Saint-Julien avec le train qui va être, attaqué. Ils vont faire exploser. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un autre... il y a des soldats qui vont être blessés. Et à la suite de ça, on veut montrer, ils veulent faire un exemple. Les Allemands veulent faire un exemple.
Il y a un officier SS aussi qui est arrêté.
Gueule d'or, mais c'est autre chose. Lui, c'est pas lui qui va faire la balance, quoi. Mais
c'était déjà décidé de faire cette horreur-là.
C'est-à-dire à partir où il y a eu des exactions, des maquisards. Des maquisards. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, pour pas avoir de problème, les Allemands voulaient faire taper fort, quoi, pour éviter quand ils vont remonter sur la route pour aller sur la Normandie. C'est ça qui va les faire montrer un exemple, quoi. Mais au départ, c'était Saint-Julien qui était visé.
Alors c'est ça que j'ai appris dans votre ouvrage, parce qu'on apprend plein de choses. Bon, alors là, pour une fois, on peut dire qu'on s'en fiche de spoiler, parce que grosso modo, quand même, énormément de gens savent ce qu'il s'est grosso merdo passé.
643 victimes le 10 juin 1944.
Donc il y a beaucoup de gens qui... Mais par contre, ce que moi j'ignorais perso, c'est qu'effectivement c'était Saint-Julien qui aurait dû y passer à la casserole, mais qu'en fait ils disaient oui, mais il y a peut-être trop de résistants dans le coin, il faudrait que ça soit vraiment un petit village, qu'il y ait quand même du monde, mais pas trop, parce qu'on est quand même pas trop nombreux, qu'on puisse faire un bon exemple. C'est vraiment, c'est une histoire de dingo, quoi. Ils est hyper planifié, froidement, à l'allemande.
Saint-Julien, c'était trop gros, quoi. C'était beaucoup trop gros pour eux. Il aurait fallu beaucoup plus de troupes, et puis faire passer ça par une vengeance du maquis, parce que c'est un peu ça, pour Oradour, ils veulent faire passer que les maquisards, il y avait une histoire de vengeance. Mais donc pour Saint-Julien, ils ont fait une réunion à Saint-Julien où le café avec les,
Les gars de Vichy.
Des gars de Vichy. Et puis à partir de ce moment-là, ils ont demandé de planifier un village, quoi. Donc voilà, ils ont choisi Oradour, quoi.
Ouais, c'est ça. On va voir se mettre en place une mécanique assez terrible. Bon, il faut qu'on aille aussi... ça tient aussi au fait que les bros, ceux qu'on va incriminer, c'est quand même pas n'importe qui, c'est les mecs de la division d'Eisreich, une division qui a fait ses armes en URSS, qui a fait ses classes en URSS, j'ai envie de te dire, dans le genre maintien de l'ordre. Et ça aussi, ça joue, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ont, à un moment donné, Hitler les a fait, comment dire, retirer du front de l'Est. Parce que c'était un petit peu pour garder, une mainmise,
les territoires occupés.
Les territoires occupés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la confiance qu'il avait était relative sur la Wehrmacht. Malgré que la Wehrmacht aussi a commis des exactions.
Dans l'Est, oui, exactement. Et les a
fait passer sur les SS aussi. Parce que l'administratif s'était fait par les SS, la prise s'est fait la Wehrmacht, et sur le front de l'Est, il n'y avait pas que la Wehrmacht. Il y avait des Roumains, il y avait des Hongrois, il y avait des divisions hongroises et des divisions roumaines. Et il y avait...
Et cette fois-ci, à Oradour, ce qui est terrible, puisque vous parlez de supplétifs aux nazis allemands, c'est des Alsaciens et des Lorrains qu'on va retrouver pour une bonne partie dans le corps expéditionnaire des bourreaux d'Oradour.
Ouais, ils ont besoin de jeunes. Donc ils vont les chercher là où c'est le plus facile, quoi. Pas en France, en tout cas. Ceux qui acceptent justement l'idéologie. Mais ceux-là, on peut pas dire les malgré nous qu'on les appelle, mais
ils étaient quand même dans la SS, parce qu'il y a d'autres malgré nous qui étaient pas, ils étaient pas obligés d'être forcément dans la SS.
Non, tout à fait. Ils pouvaient s'engager.
Alors, d'après ce que j'ai compris, à la fin, ils étaient plus trop regardants. Donc
Sens vous dites ça? Parce que
sur les origines. Sur les origines. Donc, des Alsaciens dans la SS sont pas forcément. C'est toute l'ambiguïté. Enfin, le cas des malgré nous, ils n'étaient pas forcément effectivement acquis à la cause. Ils se retrouvaient dans la SS comme ils auraient pu être incorporés dans la Luftwaffe, quoi, en fait.
Vous croyez?
Ah oui. Ouais. À la fin, franchement, on a été chercher des Allemands de territoires plus de l'Est.
Ça n'a rien à voir avec vos amis de Strasbourg.
Non, bien sûr que non.
Non, mais c'est un agglomérat. Après, ils ont tellement perdu de cadre.
Exactement.
C'est normal, et tous les vétérans, les vétérans qui ont survécu, qui ont disparu, il faut les remplacer. Donc 4 ans de guerre, sur un pays, ça pèse quand même. Et donc vous perdez quand même des gens qui avaient peut-être 30, 40 ans, et il faut les remplacer. Et pour les remplacer, des fois, il faut 20 ans.
Il faut une génération,
quoi. Donc c'est pratiquement 15-20 ans.
Il y a quand même un truc qui est quand même assez, je dirais, pas très rationnel. C'est bien joli de vouloir semer la terreur, mais on avait absolument besoin d'eux face aux Américains. Et c'est le petit Bertrand de Canal B, vous savez, le petit jeune là, qui a commencé à la radio qu'on voit de temps en temps le vendredi, qui me disait, ils ont quand même perdu 3 jours, quelque part, pour réaliser ce massacre, comment au lieu 3 jours, c'est le temps qu'ils auraient pu mettre pour être davantage près du front, quoi. C'est même pas rationnel, c'est de la barbarie pure. C'est à se demander où est la frontière entre la barbarie et pure, et puis c'est pas rationnel, ça.
Comme je disais, c'est oui, enfin.
C'est du maintien de l'ordre.
Ouais, c'est du maintien de l'ordre, les cadres, comme on disait, pour aller.
Aller massacrer un village où on sait qu'il n'y avait pas de résistants, quoi.
Oui, il n'y avait pas d'armes. C'est sûr que c'était les armes pour calmer la population, c'est un prétexte. Comme on dit, ils sont un peu, tristement, c'est le lapin qui est dans les phares de la voiture, quoi. On n'ose plus bouger, quoi. C'est un petit peu ça, quoi, la chose. C'est imagé, ce que je dis, mais c'est un peu ça. Vous êtes pris, et puis fait confiance. Parce que c'est juste pour vérifier.
Alors ça, c'est l'autre aspect qu'on découvre dans le massacre, parce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'à chaque fois, les gens, on a l'impression que les gens font comme des moutons au massacre, mais en fait, c'est très bien fichu. On leur dit, bon, on va d'abord chercher s'il y a des armes et tout, et puis c'est rassurant, ils disent, voilà, on va emmener les... Alors ils emmènent les femmes et les enfants d'un côté, ils gardent les hommes et les jeunes hommes de l'autre. Tout ça paraît, pour les gens d'Oradour, plus ou moins rationnel, en fait. Donc, c'est parce qu'ils ont décidé de massacrer les femmes à tel endroit, les hommes à tel autre.
Après, c'est justement... c'est la programmation, quoi. Tout est fait pour, justement, ne pas de... Comment dire? Que les femmes ne voient pas... Enfin, elles vont être massacrées en même temps, mais ne voient pas ce qui va se produire. Tous les pôles vont partir en même temps, puisqu'il y a à un moment donné, il va y avoir un coup de semonce pour donner le départ du massacre, quoi. Donc ça, c'est pour éviter aussi les pleurs, c'est pour éviter beaucoup de choses, je pense, la panique, quoi. Peut-être le phénomène de panique et de rester toujours...
Et puis qui aurait peut-être pu nuire aux Allemands, parce qu'effectivement, si les hommes avaient entendu les cris de leurs femmes, peut-être qu'ils seraient jetés sur les Allemands, allez savoir. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Ils ont quand même massacré 643 villageois. Alors c'est vrai qu'il y avait des femmes et des enfants.
C'est-à-dire que... je sais pas là, moi je. Je vois un peu en touche parce que c'est compliqué.
Oui,
de
c'est compliqué.
Fuir,
ouais.
Ceux qui ont fui, il y en a qui se sont fait.
Voilà, il y a eu quelques survivants. Alors, dont on va suivre d'ailleurs l'Odyssée, hein, quelque part, on peut appeler ça une Odyssée. Et le plus connu, c'est Robert Ebras. Ça serait bien qu'on commence à aborder quand même ce monsieur parce que j'imagine que vous l'avez rencontré.
Oui, j'ai rencontré, ouais. Première fois. Et ça s'est fait un matin. On devait aller visiter avec Jean-François, puisqu'on voulait voir le site. Je voulais voir comment c'était, puis bon, bah, pour rencontrer les personnes aussi, hein, l'association des victimes, Bernadette Malinvaux, l'historienne, et puis Philippe Grandcoin, et puis pour se rendre compte comment il est le village, quoi. Parce que c'est un village moderne, quoi. Il y a tout. Il y a des assureurs, il y a des boulangers, il y a tout ce qu'il faut pour vivre un petit peu en autarcie. Et puis bah, le fait qu'il y a le tramway, bah, se permet d'aller d'un point de 20 km à Limoges et permet d'aller travailler à Limoges et de rentrer, quoi. C'est quand qui amène une richesse quand même.
Je trouvais ça incongru d'ailleurs. Moi j'ignorais qu'il y avait un tramway comme ça et je l'ai appris dans votre livre. C'est assez bizarre de voir ce tramway perdu dans la nature. Là.
Ah bah il faut se projeter, quoi. Je veux dire, à un moment donné il y a des photos et je me suis projeté. Il y a le chemin qui est un petit peu en terre, quoi, et puis les rails qui sont sur le côté, quoi. Et donc après moi je suppose que ça allait jusque, ça allait, c'est sûr, mais je veux dire la route n'était pas une route peut-être stabilisée comme on le pense en goudron, c'était un chemin, donc
On va s'écouter un petit X peut-être, et puis après on va aborder
le travail, parce que justement comment vous vous êtes emparé de tout ça en tant que dessinateur. Allez, une vieillerie des années 90, programmation à moi évidemment.
Talking to me, Christine, Christine. Such a sense of loss, and the baby cried, Christine, Christine. And the whole world dragged us down. And the whole world turned aside, Christine. You're in deep, Christine. With a godlike glow, a Christine, Christine. Heart in the glory of me. Chaos in the big sea.
tu auras reconnu les House of Love. Ils papotent, les deux, du fond.
Absolument pas reconnu. Vous aviez reconnu ça, vous, monsieur Marivin?
Oh, vous n'écoutiez pas Bernard Lenoir?
Non.
Non, vous n'écoutiez pas Bernard Lenoir?
Si, on l'écoutait, mais on n'écoutait pas la pop chez Bernard Lenoir. Tiens. Alors, on a dit qu'on revenait plus sur votre travail. Comment graphiquement...
S'emparer de la chose.
Ouais, vous êtes ou pris en,
parce que vous êtes sous contrôle
de cette affaire-là.
Pour le réalisme, et quand on commence à se lancer dans le militaria, il faut être sérieux, quoi.
Bah, on essaye d'à peu près se rapprocher, puisqu'il n'y avait pas énormément de... Enfin, il y a des photos, mais je me suis un petit... Il y avait quelques... Enfin, j'ai vu quelques images, justement, où ils étaient en tenue de campagne, les Allemands, donc je me suis référé à ça, quoi. À la tenue camouflage qu'ils ont.
Ouais.
Et qui a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux Américains lors justement du débarquement, où ils ont adopté cette tenue-là et ils se sont entretués. Donc les Américains ont abandonné cette tenue camouflage. Donc les Allemands avaient ça. Et puis après, ben, toutes les armes qu'on connaît, la fameuse mitrailleuse,
la MG-42.
On a un truc un peu tordu qu'on pose à tous les auteurs qui font dans la Seconde Guerre mondiale, c'est le casque allemand.
Ouais, mais il n'est pas facile à faire.
Honnête, le mec est honnête, est honnête.
Des fois, il est très bien fait, je le fais très bien, puis il y a des fois, parce qu'il faudrait
alors
l'avoir.
Pourquoi
quoi.
C'est dur? Moi qui suis une grosse merde en dessin, déjà, je suis incapable de vous dessiner le casque allemand, mais alors, pourquoi vous, en tant que professionnel, c'est dur? Qu'est-ce qui est dur dans ce putain de casque?
Ben, c'était cette espèce d'oreillette sur les côtés, là.
Hein, quand il
et
part
puis après,
comme
il
ça.
Part en conique, ouais. Et il est fabriqué d'un seul tenant, celui-là. Il est embouti, quoi, l'emboutissage, quoi. Sauf que le casque français, par exemple, si vous vous souvenez des années 40, il est pas en embouti. Enfin, il est en emboutissage d'une première partie, mais il y a un montage.
C'est marrant parce qu'on sent l'ouvrier comment il en parle.
C'est vrai.
Tu sais,
Et par contre, puisqu'on parle de bon ouvrier, je pense que un qui maîtrise super bien le casque allemand, c'est Tardy.
Ouais, tout à fait, ouais.
Le casque allemand, alors lui, c'est pareil. Chez Tardy, il ne manque pas un bouton de braguette comme au froc de l'officier allemand.
Et pourtant, le casque,
allemand,
il y a plusieurs casques. Hein. Il y a beaucoup plus. Il y a le casque 18, vers la fin 18, qu'on a un petit peu, qui va disparaître, puis il va être un peu plus court. Puis après, ça dépend. Ça dépend après de.
Et après, pour le visage aussi bien des victimes que des assassins, est-ce que, par exemple, pour certains villageois, vous avez travaillé sur des photos des gens de l'époque?
Je me suis inspiré, ça devient des intimes. J'ai tellement regardé les photos, il n'y a pas une fois où je prépare un ref d'une planche et puis je regarde comment telle personne. Après, il y a quelques personnages qui ressemblent, qui sont réels dans la BD, mais pas tous. J'ai pas voulu non plus parce que ça aurait été d'une part compliqué. Et puis après, c'est plus facile quand on a le personnage un peu de face, un peu de profil, ça c'est beaucoup plus simple. Ou quand on a les parents, on arrive à faire le profil avec avec la parenté qui est plus jeune, ou voilà, donc un petit peu ça, quoi, de s'inspirer.
Et de la même manière, par contre, vous n'avez pas fait les couleurs, vous n'avez pas voulu faire les couleurs, comment ça se passe chez
Les couleurs, j'avais pareil, c'est un package. J'avais le dessin, le graphisme et les couleurs. Tout de suite, j'ai su ce que je voulais. Je ne voulais pas de couleurs naturalistes.
D'où ce choix de sépia un peu. On est perdu dans l'histoire.
Donc, on a discuté avec le studio Cerise. Et puis, elle a fait des essais. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, c'est bon, on y va. Quoi.
OK.
On est parti. Quoi.
Alors, j'ai remarqué un truc, moi, dans vos dessins. Ouais. Il y a vachement de plans presque à la Ennio Morricone sur les yeux. Ouais. Les yeux sont vachement utilisés. Les regards, en fait.
C'est surtout ça, les regards. Des fois, on n'a pas la bouche. Hein.
Oui.
Ou alors, des fois, on n'a que les chaussures.
Mais ça fait presque ça, dans les Ennio Morricone, etc.
Il y a quelqu'un que j'aime bien, beaucoup, qui s'inspire un petit peu de ça, c'est Herman.
Oui, c'est vrai.
Si on regarde les BD Comanche,
La
BD de Comanche, ou alors... comment il s'appelle la série
Jérémia, j'adore. Curdy.
Et là, vous avec avez. Là, il utilise toute la panelle du cinéma, justement.
Mais il y a quelque chose, en fait, quand on y réfléchit un peu. Même dans les sépias, des fois, il y a des planches de chez Herman qui sont dans des tons comme les vôtres.
Oui, tout à fait. Il a fait beaucoup aussi en dernier là des albums en couleur directe aussi.
Ça, il faut. Et là, il a sorti un truc avec un Romain là que j'avais chroniqué, j'ai oublié le nom.
Ouais, bah là, il faut quand même. Moi, je m'assume avec ma plume et mon encre de Chine et mon papier. Alors peut-être.
Mais vous vouliez ce côté donc aussi. C'était. Vous pensiez au western ou vous pensiez à Herman quand vous vouliez.
Bien sûr, j'ai regardé Herman comment il faisait ses plans caméra. Mais après, quand je regarde le film d'Ennio Morricone, le western avec Henri Fonda, mince.
Il était une fois dans l'Ouest.
Il était une fois dans l'Ouest, donc je l'ai vu, je sais pas combien de fois. Il y a aussi avec Clint Eastwood, tous ces films-là. Donc, ils le font moins maintenant, et pourtant, je trouve que c'est d'un. Bon, il y a des longueurs, mais ça permet aussi les longueurs d'amener l'action et justement comme quelqu'un qui est un orateur qui sait poser sa voix et qui sait ou quelqu'un qui fait du one man show qui sait à un moment donné là où il faut. Mais faire rire, et puis à un moment donné où on adoucit un petit peu et on repart.
Ça me fait penser que de toute façon, comme on l'avait dit, le drame est retardé en fait. Vous avez aussi construit, il y a un côté western aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, on sait, vous prenez votre temps pour vraiment poser une atmosphère et en fait, les massacres en eux-mêmes ne viennent que dans le dernier quart de la BD.
On va ramener doucement l'attention.
Ouais.
Alors, nous, on connaît Oradour, mais les jeunes ne connaissent pas forcément. Ils pensent massacre, mais ils ne savent pas comment, quoi. Ouais. Voilà un petit peu comment ça a été talonné, comment on a ramené ça, quoi. Donc, faut pas oublier que Jean-François Mignac est dessinateur aussi.
Oui, j'ai vu ça dans sa.
Donc voilà, on a travaillé en commun sur les refs, les emmener. Et il y a aussi l'histoire du regard avec la bulle.
Ouais.
La bulle qui va être dans le champ de vision du.
Et Monsieur Hébras, comment il a réagi lorsqu'il a regardé. Alors il n'a pas pu malheureusement voir l'album au complet.
Il n'a pas vu. Alors on a fait des photocopies, mais c'est alors moi j'étais pas là parce qu'on pouvait pas moi je pouvais pas lui être
physiquement là.
Physiquement là, et c'est des amis qui sont Bernard Malinvaux et puis Philippe qui ont apporté, et puis même à tout le monde, même à l'association, les refs, les planches photocopiées. Ils ont vu que le travail était sérieux et qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il n'y aurait pas eu,
Ils ont fait une belle préface, hein.
Ouais, elle est chouette, la préface. Oui,
elle explique bien le projet, est-ce qu'ils en attendaient aussi, c'est-à-dire ce truc de mémoire, mémoriel.
C'est-à-dire que rien ne se serait fait sans l'aval de Robert et puis l'association.
J'aimerais qu'on revienne justement sur l'importance de cette association, parce qu'il y a un aspect qui n'est pas abordé dans votre ouvrage, c'est tome 2, la vengeance, c'est-à-dire il va y avoir un jugement, il va y avoir des responsables du massacre. Attendez, c'est pas une critique, hein, mais vous n'abordez pas ça.
Et le procès, par exemple, des Alsaciens.
Donc moi j'ai regardé ça de mon côté. Et je me suis rendu compte, ce que j'ignorais, c'est que ça s'est super mal passé. Et que ça a été une véritable catastrophe, parce que ce jugement a été très mal vu par les habitants de l'Est de la France. Il y a même eu des communes, pas des noms des moindres, où on a mis un voile noir sur le monument aux morts pendant que se tenait le procès des gens de la Waffen-SS. Là, il y avait quelques Allemands et pas mal de malgré nous.
Ouais.
Voilà. Et au final, il y aura deux condamnations à mort, un officier SS allemand et un malgré nous. Et donc, ce jugement mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire, va à la fois mettre en colère les gens de l'Est et surtout aussi tous les gens, les familles des victimes d'Oradour qui se sont senties particulièrement flouées. Est-ce que vous pourriez me dire, pourquoi le sujet du jugement, justement, n'a pas été abordé?
On y a pensé avec Jean-François, mais on ne sait pas je ne sais pas comment on aurait pu amener la chose, quoi, parce que l'emmener sur, par exemple, pas sur l'album là, mais en faire un autre, et justement, on aurait raconté tout le côté du procès, les pressions.
Parce que si vous voulez, moi je me sens un peu, vous parliez de western tout à l'heure, je dis putain, ces salauds-là, ils massacrent tout le monde et ils partent en chantant, quoi.
Ouais. En fait, c'est un peu, c'est sous-entendu, puisque à la fin de l'album, il y a un sac qui est trouvé, une lettre qui permet d'identifier.
Oui, on sait qu'il va y avoir une enquête, vous avez raison.
Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire après, c'est vrai qu'ils ont été, c'est terrible pour eux, parce qu'il n'y a pas eu de... Je sais pas, quelqu'un qui tue une personne, en principe, il est jugé, qu'il soit alsacien, qu'il soit... Voilà. Mais bon, il y a ce côté-là, oui, mais vous savez, nos enfants, ils ont été enrôlés de force. Il y avait ce, ouais, et puis, y avait ce côté-là. Donc,
et De Gaulle, enfin, après-guerre, il a été quand même pas mal dans la réconciliation. Quoi.
Bah, parce qu'il sait très bien qu'il n'était pas dupe qu'il y avait les résistants de la dernière heure. Hein. Mais alors, ceux de la première heure et puis les derniers qui sont arrivés.
Mais alors, les malgré nous vont être grosso modo, on va dire, épargnés. Ouais. Mais comment dirais-je, les Allemands aussi. Les cadres allemands qui étaient responsables de ce massacre.
Oui, il y a eu des poursuites très longues, pendant très longtemps. Il y a un documentaire dans les années 80.
Moi, d'après ce que j'ai vu, les anciens Waffen-SS ont touché leur petite retraite d'anciens combattants jusqu'au bout.
Ça a été plus global. Ouais.
Mais en parlant aussi de cela, ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été jugés.
Non, maintenant, certains qui ont disparu, des cadres qui ont disparu sur le front de Normandie. Et puis, certains... qui se réunissaient tous les ans, il y avait ces choses-là. Et il y a un film justement qui en a. J'ai vu ce film. Je sais même plus où. Tous les ans, ils font un joyeux anniversaire où y a congratulations entre eux, une émulation. C'est tout juste si c'était bien.
Des colonies de vacances, quoi.
C'est un petit peu ça, ouais. Hein, donc c'est vrai que je pense que les Klaas-Fern a fait quelque chose d'extraordinaire, lui, d'aller chercher les bourreaux. Alors que là, il y a des bourreaux, il y en a qui ont disparu. Et puis essayer de, par rapport, j'y reprends le vieux fusil. Là, c'est lui, c'est comment Philippe Noiret qui fait sa vengeance.
Oui. Ça.
Voilà. Et les autres, ils arrivent, ils voient que le massacre. Alors que là, ils sont quand même, ils font confiance, tous les gens... Les rescapés, ce ne sont pas non plus des gens qui vont aller se venger, mais ils auraient aimé au moins quelque chose, même si ça avait été 10 ans de prison ou 5 ans,
ouais,
ça aurait
été quelque chose,
un marqueur quoi, pour eux. Et après,
c'est une histoire tragique jusqu'au bout, Radour, finalement.
Ah, tout à fait, oui. Le procès de Bordeaux, c'est terrible. Quoi. Quand ils vont à un moment donné, allez hop, on va lever, il n'y aura pas de poursuite, quoi. Il y en a qu'un qui était justement que vous relatiez,
clairement identifié.
Ouais, clairement identifié. Il n'était pas lâche quoi là-dessus.
Il a assumé même pendant le procès.
Tout à fait. Lui, il a assumé. Il y en a qu'un qui a assumé.
Il a pris.
Il a pris, ouais. Voilà.
Ouais. Interlude musical.
Yes.
Ça sera le dernier.
Take me
Vous avez pu profiter de cet excellent morceau de Bodega Tarkovsky. C'était un excellent concert d'ailleurs. J'ai pas vu passer
projets,
le temps.
Monsieur Marivin, parce que notre maître des horloges nous dit qu'effectivement, on n'a plus que le temps d'un au revoir, mais ça c'est pas. Il faut qu'on vous demande si vous avez quelque chose de.
Oui, ça va se faire là dans les semaines. Donc Jean-François reprépare un projet. Il y avait un projet qui était pratiquement acquis. Et j'ai dit à l'éditeur que je ne voulais pas faire un album tous les 12 mois. Voilà, je veux aussi prendre le temps de souffler. Et il a bien compris, j'étais franc avec lui, je ne ferai pas un album tous les 12 mois. Donc là, ça l'a contrarié, il m'a dit, on a laissé tomber. Et par contre, il m'a dit, toi, ce serait préférable de faire des one-shots. Donc on va faire des one-shots. Donc Jean-François est en train de m'en préparer un.
Hein. Excellent.
J'ai commencé, je pense.
Historique aussi ?
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Toujours la Seconde Guerre mondiale ?
Ah, bah ouais.
Mm-hmm. Il y a des casques allemands ?
Ah ouais, il y en a des casques allemands aussi. Il y en aura encore. Hein,
mais... Bordel. Alors, on avait rencontré un auteur qui remplaçait les casques par des petits calots. Ça le passe, ça peut passer.
Ah oui, mais pas tout le temps. Et les calots, je ne sais pas si les SS. Ah si, les chars, ils ont des calots.
Ouais, les mecs tout en noir. Rappelez donc un petit peu toutes les coordonnées.
Oui,
de
les
cet
coordonnées.
Ouvrage.
Donc Oradour, Oradour, l'innocence assassinée, paru aux éditions en SPAC. Je dis bien.
Oui.
Que nous devons à messieurs Mignac et Marivin
ici présents.
Et c'est un ouvrage qui vient de paraître. Hein, ça vient d'arriver dans les bacs. On est autour du 24 mai. C'est ça que vous m'avez
c'est
dit.
C'est ça. Ouais.
Et donc, il y a vraiment pas très longtemps. Vous ne pouvez pas le manquer avec une couverture terrible sur un fond orange avec un nazi anonyme puisque il lui manque le visage. On le reconnaîtra jamais. Une belle métaphore. Cette sombre histoire.
Yes.
On vous remercie, monsieur Marivin, d'être venu passer un bout votre après-midi avec plume et pinceau, et on vous dit à très bientôt.
Bonne lecture.
Merci de votre accueil.
Tant qu'on a le droit.